Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et TikTok. On est ensemble partout. Life Radio 107.7, comme tu l'entends. Woman Up, le rendez-vous de l'empowerment féminin avec Edith Broubleu, 14h-15h sur Life Radio 107.7.
De nombreuses femmes et mineurs sont exposées à des violences sexuelles au quotidien, et c'est un sujet qui met de plus en plus en émoi l'opinion publique. Non pas parce qu'on n'en parle pas assez, mais parce que plus on en parle, plus on réalise l'ampleur de cette réalité terrible. Heureusement, il existe des femmes exceptionnelles qui ont décidé de mener le combat de front et qui mènent des actions remarquables pour lutter contre les violences sexuelles. C'est le cas de notre invitée du jour, Bénédicte Johan, présidente de l'association Stop aux Chats Noirs et militante dévouée aux droits humains. Diplômée de l'université de Birmingham en Grande-Bretagne, Bénédicte s'est très tôt engagée dans l'humanitaire et dans les organisations internationales. Plus de 70 pays parcourus, des centaines de femmes formées au tourisme durable grâce à son association Train and Travel et un total dévouement à la cause des femmes victimes de violences sexuelles et sexistes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle incarne cette génération de femmes qui brisent le silence et qui contribuent à bâtir un environnement plus sûr pour tous. Vous êtes sur Life Radio, la 107.7, et vous écoutez Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Bonsoir Joanne.
Bonsoir.
Comment tu vas ?
Ça va très bien, merci Edith.
Alors, je suis ravie de te recevoir une nouvelle fois.
Merci.
La dernière fois, c'était en compagnie des filles de la Ligue.
Oui.
Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme.
Oui.
On avait une super conversation très dynamique. Beaucoup d'énergie.
C'est une belle conversation. On s'est bien éclaté.
Bien sûr. Et là, aujourd'hui, je te reçois, on va parler de toi. Mmh. Parce que je voulais que nos auditrices et nos éditeurs en sachent un peu plus. Parce que tu es la fondatrice de l'ONG Stop aux Chats Noirs. Et tu mènes énormément d'actions pour la promotion des femmes. Mais surtout la protection et le suivi des survivantes. Des femmes victimes de violences basées sur le genre. Et c'est vrai que quand on entend Stop aux Chats Noirs tout de suite, nous qui sommes Ivoiriens, en tout cas ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, savent déjà à quoi ça fait référence. Mm-hmm. Alors, par tes propres mots, mm-hmm. tu vas nous expliquer mm-hmm. Ce que Stop aux Chats Noirs signifie mm-hmm. et pourquoi et dans quelles circonstances tu as décidé de faire appeler ton ONG Stop aux Chats Noirs.
Alors, c'est toute une histoire. Alors, tout remonte en 2017, mm-hmm. si je ne me trompe pas. J'ai eu une mauvaise expérience, en fait, donc dans un foyer qui m'accueillait. Mm-hmm. Donc,
tu dis un foyer qui t'accueillait?
Oui, un foyer qui m'accueillait, donc des personnes...
Tu avais été
victime ? Oui. Okay. Donc, dans ce foyer-là, puisque je ne suis plus dans ce foyer aujourd'hui, mm-hmm. donc on m'a gracieusement hébergée. Et il se trouve que un soir, vers 3 heures du matin, mm-hmm. je ressens derrière moi une chaleur.
Wow.
Oui, je ressens derrière moi une chaleur, une personne, un homme de très grande taille, un homme que je connaissais bien sûr puisque c'est lui qui m'hébergeait avec sa femme, et un homme aussi qui fait partie donc de la famille, donc quelqu'un vraiment à qui je fais confiance, que je connais, quelqu'un sur Abidjan de confiance ou voilà. Ma mère me dit, voilà, ça c'est la famille de toute manière, c'est la famille de base. Et en fait, sa chaleur me réveille, mais c'est surtout quelque chose autour de mes fesses qui me réveille, c'est son pénis.
Waouh.
Et donc là, je me rends compte que je suis plus dans mes rêves en fait, que c'est la réalité, qu'il y a réellement quelqu'un derrière moi. Et ça m'était donc jamais arrivé. Mmh. Et du coup, je suis en grosse panique et je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, non, t'inquiète pas, ça va aller. Juste un tout petit peu, oui. Et il essaye, là, de rentrer son pénis dans moi. Et là, ça part en négociation. Donc, je lui dis, écoute, je suis super fatiguée. En fait, là, j'étais juste en train de prier et juste me dire... Béné, ta grande gueule aujourd'hui, je sais pas, mais tu vas te taire.
C'est ça.
Et en gros, c'est négociation, parce que de toute manière, là, elle va te servir à rien, ta grande gueule. Donc voilà, il essaye de m'épénétrer. Moi, je lui dis, écoute, je suis fatiguée, j'ai beaucoup travaillé, j'ai encore du travail demain, vas-y, laisse-moi. Il me dit non, juste un tout petit peu. Et là, il essaye vraiment, et je lui dis non, vraiment, vraiment, laisse-moi tranquille, quoi. Et il me dit, bon, de toute manière, tu ne sers à rien. Il va dans le salon. Et là, je l'entends se branler et éjaculer.
Waouh!
Et
malade mental.
Je ne voulais pas dormir du tout. Je ne pouvais pas dormir. J'en avais rien à foutre de mes affaires ce soir-là. Je me suis dit, comment je vais sortir de là? Mais comment je vais sortir de là sans qu'il le sache? C'est-à-dire, j'imaginais une stratégie, en fait, en me disant, comment... tu vas te... Ben comment, en fait, tu peux t'échapper, en
c'est
fait.
C'est ça, te sortir de cette situation.
Et tout ce que je voulais, c'est qu'il soit à peu près genre 5h30, 6h, pour qu'il fasse un peu jour et partir. J'ai pris mes affaires, comme c'était un hébergement temporaire, justement, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'ai laissé certaines choses derrière moi. La chance que j'avais, c'est que je pouvais m'offrir vraiment, réellement, un hôtel après.
C'est ça.
Pour un... bout de temps, le temps de trouver un appartement. Ce passage-là...
C'était à Abidjan ?
C'était à Abidjan, ouais.
Waouh !
Et ce passage-là m'a vraiment traumatisée, puisque pendant 3 mois, je ne faisais que penser à ça, je ne savais plus du tout où était ma tête. Je pouvais être là avec les amis, on me parlait.
Tu déconnectais complètement.
Je déconnectais parce que j'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé et j'en avais déjà parlé, en fait. Et j'en avais parlé à mon ex, et qui m'avait dit non, t'hallucines, ta, de toute manière, toi tu vois mal les choses partout, je pense pas qu'il ait pu te faire ça, c'est impossible.
Parce qu'ils se connaissent aussi.
Ils se connaissent aussi. Wow. Ouais. Donc, bon, comme Abidjan est petit, hein, comme on dit.
Toujours, Abidjan est bien petit même. On se retrouve toujours.
Donc, en fait, un soir, donc, je suis avec une amie et je lui parle de ça. Et elle me dit, Béné, porte plainte. Tu peux pas rester comme ça alors que toi, t'es la première qui m'aurait dit de porter plainte. Toi, tu fais quoi?
Le condamné est toujours mal chaussé.
Et moi, je suis celle qui est en train de me taire, en fait. Et je lui dis, ouais, je sais pas, j'y arrive pas, j'ai trop peur, ta. Et après, du coup, en fait, l'avantage, je sais pas si c'est un avantage ou quoi, c'est que, en fait, ce gars-là a aussi la nationalité française. Donc, du coup, en fait, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit, je sais pas si on va me croire ici, mais je vais porter plainte en France.
Ok.
Sachant que ça s'est pas passé, en fait, en France.
C'est ça.
Donc, mais je voulais juste mettre une sorte de, comme une main courante ou un...
En tout cas, quelque chose dans le système judiciaire.
Oui, voilà, exactement, pour que même s'il fait ça à quelque chose, s'il le refait à quelqu'un, que ce soit en fait sur son dossier.
C'est ça.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ma pote, c'est elle qui m'avait encouragée. Et après, du coup, à l'époque, j'ai toujours cette association qui s'appelle Train and Travel. Et j'en ai parlé aussi aux bénévoles de cette association et qui m'ont dit de toute manière, nous tous on l'a subi, le chat noir, nous tous on l'a subi. Donc c'est parti vraiment de
c'est là
parce
déclic.
Que c'est le déclic parce qu'elles ont banalisé. Elles ont banalisé le fait que je leur confie quelque chose déjà en tant que femme, une peine qui m'était arrivée. Et que ça leur était tout arrivé et que c'était normal.
C'est ça, elles avaient intériorisé.
Exactement.
Et pour elles, c'était, mais bon, tu te plains, mais nous aussi, on a vécu. Bon, ouais,
voilà, exactement. Exactement. Donc, c'est là où je me suis dit, non, mais il faut faire quelque chose. Et à l'époque, c'était pas du tout, ça allait pas du tout vers Stop au chat noir.
Je savais que c'était un chat noir
depuis que ça s'était passé, parce qu'on me disait déjà, c'est le chat noir. Mais le déclic, c'était plus qu'on m'a dit, mais nous toutes, on l'a subi.
Ouais.
Donc, c'est là où vraiment le déclic s'est passé. on a commencé à vraiment parler, je leur demandais, non mais attends, c'est-à-dire ça s'est passé, ah mais moi mon beau-père me l'avait fait, ah mais moi c'était mon cousin. Wow. Et là c'est parti vraiment en témoignage, c'est parti en journée témoignage et j'ai pris un coup en fait, j'ai pris un coup. Et donc, au début je voulais simplement créer en fait une application mobile pour aider les jeunes qui étaient justement dans les foyers et qui ne savaient pas à qui parler justement de ça. Parce que je me disais, ben, c'est très facile pour moi là de sortir et de le dire, parce qu'on va dire, il y a du monde autour de moi, il y a toujours des gens. En fait, j'en parlais tout le temps au final, en fait. Mais je ne savais pas vraiment comment les personnes qui vivaient au sein d'un foyer où il y avait peut-être le cousin, l'oncle ou une nounou qui était hébergée, comment elle le vivait. Donc l'idée, c'était de leur donner un outil pour ça. Donc on avait approché à l'époque, je me souviens, les étudiants des SATIC pour nous aider à faire cette application mobile. Et au début, c'était juste un projet, les jeunes contre les violences sexuelles.
Sexuelle, oui.
C'était vraiment ce projet-là. Et au fur et à mesure, un jour, je rencontre Kajim.
Ok, salut Kajim, le grand frère.
Ouais, Kajim. Et Kajim, je lui parle de ce projet et il me dit, mais Béné, pourquoi tu l'appelles tout simplement pas Stop au chat noir, arrête de te prendre la tête avec les stop aux violents, les jeunes contre les violents. Ouais. Et je lui dis, ah, c'est vrai qu'on a y pensé, mais je sais pas, c'est beaucoup trop direct. Parce qu'en fait, on y avait pensé, comme je lui ai dit. Mm-hmm. Et puis il me dit, mais appelle juste Stop au chat noir. Je lui dis, non, mais c'est trop direct. Parce que j'avais peur au début, hein.
J'étais en mode,
non,
peur?
Non, mais j'avais peur, je me disais c'est trop direct, les gens ils vont me détester.
Parce que
j'ai dit stop au chat noir et tout. Il me dit il faut l'assumer, c'est juste un mot qu'il faudra assumer. Et bim, là le projet on l'avait vraiment changé en stop au chat noir. Et bien sûr, dans ça, fallait que moi je fasse ma thérapie.
Oui,
donc
c'est
j'avais
important.
Fait de l'art-thérapie à l'époque, donc beaucoup de thérapie d'abord avant de pouvoir aider les autres. Mm-hmm. Donc c'est comme ça qu'on avait instauré vraiment le côté art-thérapie. Il y avait une
art-thérapie pour nos auditrices et auditeurs, c'est la thérapie par l'art, donc la peinture, ça peut être la danse.
C'est ça, la danse, la musique. La musique, voilà, le chant. On avait même eu Christine Ago qui était venue un moment pour faire du chant-thérapie. Mm-hmm. Donc voilà, ça avait vraiment commencé comme ça. On avait fait notre tout premier événement. C'était un événement, je me souviens, où on avait invité plein de jeunes filles.
Oui.
Et il y avait 50 femmes qui sont venues, donc 50 jeunes. Il y avait des scouts, il y avait de tout en fait.
C'est ça.
Et environ dans ces 50, 45 avaient vécu une forme de violence au sein du foyer.
Presque 97% quoi, de l'assemblée.
C'est ça.
Et si tu prends à l'échelle nationale, tu vois que ce ratio-là même est peut-être respecté au niveau des femmes en fait.
C'est ça.
Ouais, et tu as ce choc. Et donc on est toujours en 2017.
On est toujours en 2017 et là c'est fin 2017, 2018 arrive, on est un peu plus dans les actions à cause de ces On Vague Bailler. Donc on avait commencé à appeler notre premier On Vague Bailler, c'était non, à l'origine au sein de l'association Train and Travel. Donc,
c'est ça, en fait, et tu as transformé l'association Train and Travel qui était dédiée
au tourisme, qui n'avait rien à voir.
Et tu l'as transformé
en stop au chat noir. Parce que, en fait, c'était un projet, du coup, on l'avait créé, projet stop au chat noir au sein de l'association. Mm-hmm. Mais on s'est rendu compte que c'était pas du tout les mêmes thématiques et les gens étaient un peu mélangés. Ils voulaient s'investir dans le projet contre les violences sexuelles, mais ils voulaient pas s'investir dans le côté tourisme.
Oui.
Donc là, c'était vraiment de se dire qu'il fallait séparer. Donc en fait, j'ai gardé l'autre association quand même.
Okay.
Et j'en ai recréé une autre. Du coup, je me suis retrouvée avec deux associations sous la main.
Ouais, c'est du boulot.
Au lieu de une, et je m'y attendais pas du tout.
C'est ça. La vie en a voulu autrement.
Exactement.
Et que tu sois utilisée pour une mission. Donc, lutter contre les violences sexuelles.
Exactement, ouais. C'est ça l'histoire de Stop au chat noir. J'aurais pas imaginé que ça aurait grandi, en fait.
Je ne savais pas que c'était parti d'une violence que toi-même tu avais subie. Je t'avoue que je pensais que c'était une expérience qu'une de tes proches avait vécue, ou bien le fait que ça soit tellement récurrent dans nos sociétés que ça t'a révolté et que tu as décidé de créer l'association, l'ONG. Et là, je découvre en fait que c'est toi qui a été victime et qui a failli être violée et qui a vécu cette violence sexuelle au sein d'un foyer.
C'est ça.
Tu devais te sentir en sécurité.
Exactement.
Parce que tu connaissais la personne qui a voulu abuser de toi. En tout cas, force à toi, hein. Beaucoup de courage.
Merci.
C'est vrai que ça fait plusieurs années que ça t'est passé. Et il y a eu la thérapie qui a suivi derrière. Mais finalement, tu es en mission.
Oui.
Ton chemin Trend and Travel a été dévié aujourd'hui. tu représentes aussi une sorte d'appui aux d'autres femmes qui subissent ces violences. Et tu mets surtout en lumière en fait, que c'est une réalité en fait, dans nos sociétés qui touche les femmes. Donc, en termes d'action, avant qu'on passe à la prochaine partie, quelles sont les actions qui ont été menées, les actions d'envergure qui ont été menées depuis par l'ONG, combien de membres, comment ça fonctionne et tout?
Alors aujourd'hui, on a 80 membres.
Ok.
Dont on va dire la 80% des membres sont des jeunes.
Oui.
Donc nous, chez nous, les jeunes sont de 30.
Ouais, on est jeunes jusqu'à 45 même en plus.
Donc, on a un gros focus sur la jeunesse, que c'est important, bien sûr, pour nous de sensibiliser cette tranche d'âge.
Oui.
Aujourd'hui, on a donc créé une application mobile depuis, donc qui existe. On a ouvert récemment, depuis donc janvier, un Sili dans nos bureaux. Donc, c'est notre petit refuge qui s'appelle Kotonga.
Kotonga,
qui signifie se reconstruire.
Ok. En quelle langue?
Et en Lingala.
Kotonga.
Ouais.
Et c'est dans quel quartier?
C'est à Bingerville. Alors, on peut pas dire exactement où. Mais
pour protéger et les survivantes, oui.
Ouais. Mais c'est à Bingerville, au moins. Bon,
et puis on peut appeler.
On peut appeler. Donc
le
numéro de téléphone. Que je prends maintenant parce que.
C'est tout neuf.
Faut dire le numéro de téléphone. Alors on a deux numéros de téléphone, ils sont assez faciles à retenir. Donc il y a le 07 77 77 79 07. Et il y a le 27 33 72 72 72. Voilà.
Okay. Vous pouvez contacter ces deux numéros à tout moment. 24 heures sur 24,
on est disponible.
Okay.
Aujourd'hui, on est aussi recruteur parce qu'on a 7 salariés dans l'association aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis aussi fière, c'est de créer de l'emploi autour de moi, autour de ma communauté.
Oui.
On a eu à aider plus de 145 survivants et survivantes.
Parce qu'il y a des hommes aussi, il y a des petits garçons.
Oui, exactement.
Oui, oui.
Et il faut savoir qu'un de nos premiers projets était du côté de Yopougon avec les petits garçons qui se prostituaient, c'est pas le mot à dire, mais qui étaient exploités sexuellement par les taxis. Donc en fait, les taxis viennent dans les quartiers de classe moyenne à Yopougon, où ils voient les enfants jouer au foot et ils leur demandent de venir faire une pipe pour 2000 francs ou 1000 francs.
Non !
Et ça, c'était un de nos premiers projets autour de la thérapie, l'art-thérapie, à Yopougon. On oublie souvent qu'on est des garçons, parce qu'à chaque fois, oui, les garçons, on les a aidés.
Waouh, wow, choquée.
Le projet est terminé maintenant, mais c'était en partenariat avec une autre association à l'époque. Et nous, on intervenait sur le côté art-thérapie.
Mais je dis que le projet, il est terminé, mais est-ce que c'est... Après, c'est terrible, c'est grave.
Ouais.
Mais est-ce que la mairie, est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce que ça continue, en fait?
Alors, quand je dis projet terminé, ça veut dire que le financement est terminé.
Le financement, ok, d'accord.
Et du coup, je ne pourrais pas dire aujourd'hui si c'est toujours là, mais je sais qu'il y a toujours des... Comment on appelle? C'est comme des éducateurs qui sont dans ces quartiers-là pour sensibiliser et pour aider justement les garçons au cas où ils terminent dans ce type de dérive. Sachant que de base, ils sont vraiment de classe moyenne, donc ils n'ont pas... vraiment de, de ils ils ont quelque part où dormir, ils ont des parents, ils ont une maison.
Et les parents n'ont pas suffisamment de moyens et tombent facilement dans la facilité.
Non, justement, c'est juste que c'est pour ça que je disais classe moyenne. Mm-hmm. Les parents ont les moyens, c'est ça peut être des cadres moyens. Mm-hmm. C'est juste que l'erreur de ces enfants, c'est qu'ils jouent dans la rue, dans les cités, et les taxis en profitent pour se balader et proposer 1000 francs de 2000 pour une pipe.
Je suis choquée.
C'est comme ça que ça se passe.
Ils ont quel âge?
10 et 13 ans. Et généralement, quand ils gagnent un peu d'argent, ils vont voir leurs copains en disant « Oui, j'ai gagné ça là, viens. » Voilà, c'est de l'argent facile, en fait.
C'est ça.
De l'argent facile. Wow. Ouais.
Je suis choquée. J'imagine que nos auditrices et auditeurs également, je prends une gifle, là. Joanne, tu me parlais de cette situation horrible que vivent dans certains quartiers qui sont censés être des quartiers protégés. Mm-hmm. On va pas dire forcément des quartiers, des cités populaires, mais vraiment des quartiers où des petits garçons se font agresser sexuellement par des chauffeurs de taxi. Vous avez, on va dire, mené l'enquête et tout. Mm-hmm. Il y a eu des résultats, des données. Au final, c'est quoi la finalité, en fait, de l'approche, pour comprendre la situation, pour parler à ses enfants, pour les écouter, mais au niveau, on va dire, beaucoup plus haut, est-ce que ça a été remonté, par exemple, à la mairie ou ce genre de choses?
Alors, à l'époque du projet, quand le projet se passait, c'était d'abord...
C'était en quelle année?
C'était en 2018-2019. C'était par rapport d'abord à la délinquance qui se passait dans cette zone-là, et surtout avec les enfants et les parents qui ont en fait remarqué que justement leur enfant était...
Il y avait des changements de comportement.
Était devenu délinquant. Donc il y a des éducateurs, en fait, ce qu'on appelle... c'est des sortes de mobilisateurs, des agents mobilisateurs qui sont là pour se balader dans la rue. Mmh. À l'origine, c'était pour les filles qui étaient exploitées sexuellement. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a pu remonter aux jeunes garçons exploités sexuellement. Mmh. Donc, ce projet, il était d'abord destiné pour les jeunes filles. Mmh. Et au fur et à mesure où les mobilisateurs se baladaient dans les quartiers, se rendaient compte de d'autres plaies, en fait, et d'autres victimes, on va dire, d'autres bourreaux, si on peut le dire comme ça. Donc, non, ça n'a pas été remonté à l'époque à la mairie, puisque c'est des projets d'ONG. Donc, je ne pourrais pas savoir où le projet en est fini, mais il y a un rapport. Il y a un rapport qui est disponible. Donc, ça, c'est avec SOS Violence Sexuelle.
D'accord.
Donc, voilà. Ensuite, on n'avait pas, nous, continué quoi que ce soit. Après, c'est vrai que c'est toujours, en fait, se dire ce serait bien d'y repartir, ce serait bien de refaire quelque chose. Ben pour ça, en fait, il faut les moyens.
De voir si ça a changé,
exactement.
Si ils ont arrêté ou si ça continue, si ça s'est amplifié.
Ah non, c'est sûr que ça ne s'est pas arrêté parce que nous, on a des mobilisateurs aussi chez Stop au Chat Noir. Donc, ces mobilisateurs-là qui, à l'époque, en fait, justement, ils sont arrivés de Yopougon. C'est des mobilisateurs de Yopougon. Mm-hmm. Ils nous parlent toujours de ce type d'histoire. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est des jeunes aussi, ils sont du quartier, donc ils voient ce qui se passe au quotidien. Ils sont là pour parler aussi aux parents, pour alerter. Donc oui, c'est toujours là.
Wow.
Donc c'est toujours je pense que ça sera intéressant justement de mettre un jour de la lumière sur, en fait, justement, sur ces mobilisateurs là parce qu'ils voient tout.
Oui.
Ils voient tout.
En fait, ce sont comme des bénévoles.
Oui.
Qui sont dans les quartiers et qui remontent
aux associations,
des informations, ce qui se passe. Ils font des alertes également.
Exactement. Et ils sont aussi considérés comme des grands frères.
Oui.
Ou des grandes sœurs face à la population. En tout cas, les jeunes filles et les jeunes garçons qu'on a eu à accompagner, ils vont aller dans leurs bras. Ça va. C'est toujours cette fraternité ou sororité qu'on va voir. Donc,
un peu de mentorat aussi.
Ouais, ils sont là pour ça vraiment.
Alors là, on a ce choc là, et j'imagine que forcément du côté des femmes, il y a eu un cas qui depuis 2017, de 2017 jusqu'à 2023, jusqu'à maintenant, dont les cas que tu as eu à gérer, à traiter, il y a forcément eu un cas qui t'a marqué au point de dire, waouh, Est-ce que je peux tenir longtemps comme ça?
Alors, il y a beaucoup de cas. J'irais le cas qui m'a le plus marqué chez Stop au Chat Noir, c'était le cas d'un kidnapping.
Tu vois, en fait, moi, je fais mon visage en fait. Je m'attends à. J'essaie de m'apprêter.
Je rigole, c'est pas marrant.
Non, c'est pas marrant du tout. En fait, j'essaie de m'apprêter en fait à recevoir l'onde de choc.
Ouais.
Ce que tu vas me dire, ce que tu vas dire aux auditrices et aux auditeurs.
Ouais, non, faut être prêt. Trigger warning. Ouais, trigger warning. Là, je le dis. Ouais, là, je le dis. Donc, en fait, c'est. Donc, je vais taire le quartier, tout ça. Mm-hmm. Mais bon, c'est une jeune fille qui a été kidnappée. On lui a mis un mouchoir dans le.
La droguer. Pour l'endormir.
Pour l'endormir en plein jour. Elle s'est retrouvée au milieu de je sais pas où, donc je vais taire les noms, sinon c'est à...
La localisation de
ouais,
ça.
Ouais. Et donc, elle se réveille où, en fait, c'est digne d'un film, hein, ce que je vais vous raconter. Où elle se réveille et il y a une vidéo de jeunes filles qui sont en train d'être mutilées sur la vidéo. On est en train d'enlever les parties génitales de plusieurs jeunes filles sur la vidéo. Donc, elle se réveille devant des écrans comme ça. Et les gars lui disent « Si tu te tais pas, on va te faire la même chose. » Donc, il la menace avec des vidéos. Ils lui disent « C'est nous sur la vidéo là, on va te faire la même chose. » Donc, ils sont en train déjà de mutiler des jeunes filles, de leur enlever les parties génitales et de se filmer. Mmh. Et ils ont kidnappé une autre fille à qui ils veulent faire ça. Mmh. Et elle, tout ce qu'elle est en train de penser, bah, c'est s'enfuir, bien sûr. Donc, il la viole. Et elle arrive à s'enfuir. Mais je pense que, donc aujourd'hui, on sait tous qu'en fait, ils l'ont laissé partir simplement. Donc, elle se retrouve en plein milieu à demander de l'aide, de tout ça. Donc, c'est comme ça que nous, Stop au Chat Noir, on a été contactés. C'était très dur pour nous parce qu'en fait, c'est une histoire qui, pendant, je pense que 6 mois, on a dû essayer de régler cette histoire, de retrouver aussi les personnes.
C'est ça.
Qu'on n'a toujours pas retrouvé, malheureusement.
Ils sont toujours dans la nature.
Ils sont toujours dans la nature parce qu'à l'époque, alors il faut savoir que Stop au Chat Noir évolue aussi beaucoup en termes d'assistance. Mm-hmm. Mais à l'époque, je pense qu'on n'avait pas autant de contacts. Mais la police, qui devait nous aider... Nous demander en fait de les accompagner vers l'endroit. Donc en fait, pour faire les guets et pour attendre, en fait, ils demandaient aux communautés de faire les guets, d'attendre que ces personnes reviennent de cet endroit. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ils sont toujours dehors. Mais moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'est que en fait, la police nous avait dit que ah mais oui, on connaît ce réseau, ils sont connus pour mutiler ou pour enlever les parties génitales des jeunes filles. Donc la police, en fait, ce réseau était déjà connu de la police.
Waouh.
En fait. Ouais. Et la police les a laissés. Alors je vais pas dire qu'ils les a laissés, ils ont laissé comme ça.
L'enquête n'a pas suivi son cours.
Elle
est restée en l'état.
Elle est restée en l'état et c'est pour ça que je parle de ça parce que je le regrette un peu.
Oui.
Parce que je pense que malgré même j'ai pu appeler machin et c'est comme si ça revenait toujours.
C'est ça.
C'est-à-dire oui on va t'aider ou j'aurais pu rencontrer un commissaire à une conférence ou quoi et lui dire oui voilà ce qui s'est passé avec tel commissariat.
C'est ça.
Oui, on va t'aider.
Ils s'engagent tout de suite et puis après.
Voilà, et après, c'est comme si ça revient à zéro. Donc, ça virait limite à l'épuisement. Et là, je dirais que c'est resté toujours néant un an après, quoi.
Nous sommes en danger, en fait. Les jeunes filles sont en danger avec des prédateurs de ce type qui mutilent les parties, qui retirent les parties génitales et qui violent.
Ouais. Et juste pour la petite histoire avec cette personne, et pour ça que je disais aussi qu'on était des débutantes à un moment, c'est que, bon, à l'époque, quand on n'avait pas de salarié ou quoi, je me déplaçais souvent, en fait. Je faisais cette erreur de me déplacer souvent parce que, les bénévoles avaient beau dire, ou les avocates avaient beau dire, oui, on peut faire du pro bono. Les psychologues, on peut faire du pro bono, mais dès qu'on les appelle à minuit, oui, on a besoin de ça, on a besoin de ton aide, est-ce que tu peux aider? Non. Et ce jour-là, et heureusement peut-être que je l'ai fait, donc j'ai pris la voiture avec un ami, je lui ai dit tu viens avec moi, toi t'es costaud, si on me tape là-bas, il y a quelqu'un.
Ça me protéger.
On a fait ce soir-là 6 hôpitaux pour chercher le... Comment on appelle ça le... les kits que tu prends après
le viol.
Ouais.
Oui.
On a fait 6 chutes. Et ça, c'était tellement fatigant. C'est-à-dire, je suis rentrée chez moi à 7h du matin. J'ai l'impression d'être allée en boîte de nuit. Hein.
Il n'avait pas de kit.
Il n'y avait pas de kit. Il n'y avait pas d'endroit disponible pour la jeune fille. C'est jusqu'au CHU de Trècheville qu'on a dû arriver pour que là, ils nous disent, oui, on peut vous donner déjà ça et puis revenez demain. Donc, imaginez comment ça épuise.
Épuisant pour la victime.
Une personne.
Oui.
Alors que nous, encore, on était là pour la motiver puisqu'on avait la voiture et tout ça. Mais imaginons, elle était seule. Donc, imaginez ce qu'une victime...
Oui, le parcours d'une victime de viol.
Exactement. Et c'est là où je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, ouais, les filles, elles souffrent. Parce que c'était moins de 24 heures.
C'est ça.
Donc, elle nous avait appelé. C'était très bien parce qu'elle nous avait appelé très, très rapidement. Donc, dès que c'était SAP, ses frères avaient appelé et tout ça. Et donc, ouais, on avait fait 6 hôpitaux. C'était, pour moi, c'était scandaleux ce jour-là. Ah oui.
Et comme tu le dis, c'est-à-dire que t'imagines une victime de viol. Ouais. Elle sort. Elle cherche de l'aide. Et elle est traumatisée. Et elle va dans un hôpital pour trouver déjà de l'aide. Bon, tu sais comment on nous gère dans les hôpitaux. Bon, bien sûr. Mais trouver un kit, on va la trimballer ici. On va la trimballer là-bas. Ouais. Elle est traumatisée.
Ouais.
Elle a envie même de tout abandonner. Et tout ce parcours-là, on est incapable de trouver un kit.
C'est ça.
Et j'imagine même la manière de recevoir même la victime et tout. Là, c'est un autre débat.
Ça, c'est un autre débat. Là encore, on était là, donc je pense que ça a beaucoup aidé. Mm-hmm. Mais on s'est rendu compte d'une... En fait, il y a un néant. C'est comme si les gens ne sont pas là. Ça ne les regarde pas.
Non, à la limite,
voilà.
On est obligé de le dire. Ils vont te faire comprendre que moi, ce n'est pas mon problème. Ouais. Je suis médecin. Je suis infirmière, mais c'est pas mon problème.
Ouais.
T'as été victime de viol, c'est que ça doit être de ta faute.
Non, c'est ça.
Je suis certaine que pour la plupart.
Mais même les questions, c'était ça. Même les questions des médecins.
Ah bon?
Les médecins aussi, ils abusent des fois.
Ils sont tellement. Je peux dire
Mais pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça?
C'est ça.
Et donc, t'as vu quoi d'autre à la télé? Et puis en fait, ils vont la. Je sais pas, ils ont une manière. C'est comme si.
C'est
ils sont des policiers. Oui, c'est bizarre en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé encore dans cette chambre?
En fait, ils sont comme s'ils veulent des détails scabreux.
Ils vont le faire avec le sourire.
C'est ça.
Et en fait, moi, j'ai vécu tout ça. Et je suis en mode, non, mais c'est un gag que je vivais. C'est un gag.
Tu as parlé de policiers.
Oui.
Il y a le système judiciaire et tout. Il y a des cas. Bon, tu as parlé de cette enquête, malheureusement, qui n'a pas abouti. Est-ce que pour les bourreaux. Les victimes vont jusqu'au bout pour porter plainte. Est-ce que tu as eu des cas où vous êtes allé jusqu'au bout avec les avocats et la victime a pu obtenir justice?
Aujourd'hui, honnêtement, quand un cas va jusqu'au bout, c'est quand c'est une mineure.
Okay.
Honnêtement. Et ça va très rapidement.
Ah, quand c'est une mineure.
En moins d'une semaine,
oui.
Tout est réglé. En moins d'une semaine, on sait que la personne est à la police. Ça y est, en prison.
Oui.
Mais quand c'est une personne adulte, une femme adulte...
On met tout de suite en doute.
Jusqu'aujourd'hui, là, il y a des cas, on est en train de se regarder. Je ne fais que pousser. Je peux même pousser tous les mois. Je fais exprès de pousser tous les mois. Comme ça, la victime ne se dit pas qu'on la laisse tomber.
Mm-hmm.
Mais à partir du moment où elle est majeure, où ça touche en plus, où le violeur ou l'agresseur est une personne aussi assez haut placée, ça complique tout.
Oui.
Donc je dirais aujourd'hui, les cas qui sont toujours allés jusqu'au bout, c'est quand c'est des mineurs. Et quand c'est des personnes adultes, on est toujours en train de ramer.
C'est difficile, c'est extrêmement difficile.
Ouais.
J'ai l'impression que les ONG en fait se battent pour les victimes, mais le système... ne comprend pas, en fait.
Non.
Il n'y a pas d'efforts, vraiment, qui sont réalisés.
Il n'y a pas d'efforts. Et vraiment, nous, de base, on est des volontaires.
Oui.
De base. Donc,
voilà,
on n'est pas professionnels.
C'est du bénévolat. Vous le faites parce que vous aimez l'être humain.
C'est ça.
Vous voulez sauver les victimes, mais c'est pas votre but. C'est pas votre objectif dans la vie.
C'était pas mon métier de base. Comme je t'ai dit, c'est
déjà,
pas
ton métier de base, c'est de calpondir. Ton métier de base, même en plus, tu vois.
Donc c'est vraiment ça. C'était pas mon métier de base.
C'est ça.
On se découvre, on se forme aussi, parce que du coup, en fait, on est obligé de se former.
C'est ça.
On est obligé de payer des formations pour se former à la protection et tout ça. C'est des nouvelles compétences.
Exactement.
Certes, mais de base, c'est pas notre métier. Donc on apprend. On apprend aussi. On doit apprendre les lois. On doit se renseigner tous les jours
former.
Parce que tout change d'année en année.
C'est ça.
Se former et surtout pouvoir mieux réagir face à des situations.
C'est ça.
Et oui, bon, on apprend aussi que dans l'associatif, il faut avoir ses contacts.
Exactement.
Si on n'a pas des contacts, on peut pas aider telle victime.
Il faut avoir un bon carnet d'adresses,
bien documenté, bien rempli pour pouvoir activer.
Quand il y a des situations d'urgence.
Et même quand on pense qu'on a le bon carnet d'adresses, on a déjà eu un avocat qui nous a lâché complètement.
Ouais.
Il nous a dit, non mais votre cas là, on va me tuer.
Il a eu peur.
Alors que lui-même, il disait, non,
je suis prêt, je suis déterminé à aider, pro bono.
Bref.
Waouh. J'encaisse beaucoup. Vous n'êtes pas avec nous dans le studio, mais Joanne est d'une force. Elle est donc calme. Et je pense que c'est ça, c'est cette qualité-là qui lui permet de pouvoir encaisser et surtout se mettre au service des autres. Des femmes, comme des jeunes garçons, des mineurs, qui font appel à son ONG Stop au Chat Noir pour obtenir de l'aide, pour obtenir réparation aussi. Pour obtenir et surtout la guérison. Parce que y a des thérapies également qui sont apportées à ces personnes qui malheureusement ont été brisées par des bourreaux. Alors, rapidement, pour revenir sur ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études? Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais encore à l'école, au primaire, au secondaire, à l'université et tout ça? Et puis avant que ton chemin ne t'amène sur l'assistance aux personnes en danger.
Alors, j'ai toujours aimé voyager et je voulais être hôtesse de l'air à l'époque.
Ah, ok.
Jusqu'à ce que je prenne le premier avion quand il y a eu la guerre.
2010 ?
Alors, non, parce que c'est moi d'origine, je suis du Congo.
Ah, ok, d'accord.
Et quand il y a eu la guerre au Congo, du coup, on a dû partir avec ma famille. Et du coup, oui, donc c'était en 96, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai pris l'avion et je me souviens... Est-ce qu'il n'y avait pas Sabena? J'ai l'impression que c'était dans un Sabena. Ça existe même.
C'est une ancienne compagnie, je pense.
Ça
a dû fermer.
Ouais. Et donc, en fait, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, en fait, j'ai pas envie d'être serveuse dans l'air.
T'as vu les réalités, on est suspendu en l'air, là.
Mais je voyais toutes les dames servir des hommes, là. Et là, non, thank you.
C'est ça,
hôtesse? Je savais déjà, oui, mais je savais déjà que c'est... Non, je veux pas servir les gens comme ça. Que c'est la même chose que servir, non.
C'est ça, serveuse dans l'avion.
Moi, je savais pas. Ah, c'était tout le glamour des belles. Hôtesse. Donc, en fait, et après, je lui disais à ma mère, non, j'ai quand même envie de voyager. Et ce que je veux faire, c'est aider les gens, mais voyager.
C'est ça.
Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens et voyager? Franchement, je ne savais pas où j'allais terminer, pour être honnête. Et il se trouve qu'à l'école, j'ai toujours été déléguée. J'ai jamais été première de la classe, mais j'ai toujours été déléguée.
Moi aussi.
Enfin, j'ai toujours été à être déléguée. Si on votait pas pour moi, là, c'est gâté.
C'était là que ton leadership a commencé.
J'étais toujours un peu dans les trucs de vote. J'ai été présidente à l'université. J'étais toujours dans des trucs de... Il fallait que je sois au top d'une organisation, en fait.
C'est-à-dire activiste déjà, en fait.
Ouais,
engagée, activiste, leader.
Ah non, mais si tu me voyais à l'université, moi, je faisais justice pour Cleaner. Donc, donc j'ai étudié en Angleterre. Je me mettais par terre devant l'université avec mes collègues et on demandait que les nettoyeurs soient mieux payés.
Ouais.
Et on arrêtait aussi les gens qui traitaient mal les nettoyeurs, par exemple qui salissaient les toilettes,
c'est ça.
Tout ça. Donc moi j'étais déjà dans tout ça. J'étais aussi dans mon activisme de bouffe. J'étais à l'époque végétarienne.
Ah, j'étais végétarienne. J'ai tenté l'aventure à un moment donné, mais j'ai fui.
Bon, moi j'étais pas très dure. Hein. Je faisais pas faire peur aux gens pour leur dire de manger comme moi. Mais j'ai fait ce qu'on appelle... Alors ma mère jusqu'à aujourd'hui, elle aime pas que j'en parle parce que elle dit que je lui mets la honte dessus,
non,
comme
veut,
si
non,
comme veut, si elle m'a mal éduquée. En fait, moi, j'ai fait du dumb diving.
C'est quoi
le
ça?
Le dumb diving, c'est quand t'es étudiant, là, t'as pas d'argent. T'as pas d'argent. Et en fait.
Ah, les poubelles?
Ouais. Mais en Angleterre, c'est chic, hein.
Non, ça fait un genre, tu vois, non? Ça, non. Recyclage.
C'est chic parce que tu sais que.
Pause.
Oui.
Dès que les poubelles de Londres sont différentes des poubelles d'Abidjan.
Mais merci, c'est
voilà,
pour ça que
c'est pas pareil
chic.
Aussi.
Tu peux même prendre du shampoing. Il y a du shampoing, il y a du parfum. Quand tu vas derrière les Sephora, tout ça, là. En fait, ils ont pas le droit de jeter. Donc, en fait, tu ramasses du parfum, tu ramasses du shampoing qui a juste été ouvert comme ça. Tu fais ton shopping. Moi, je mangeais mes sushis dans les poubelles.
Tu vas aller joindre.
Ça ne m'avait pas honte de dire ça.
Sélection, hein. Sélection. Oh, celui-là, c'est un dernier cru.
Ça ne m'avait pas honte de dire ça du tout. J'ai fait les ménages. J'ai été serveuse. J'ai été serveuse très longtemps. Et c'est ça qui m'a formée, en fait.
L'apprentissage.
L'apprentissage. Puisqu'à un moment, j'ai été même manager dans un casino où j'étais manager des serveuses. Oh. Donc, c'est à partir de ce moment, je pense, que j'ai vraiment aussi appris sur le management, le travail de pression, le travail sur l'hygiène et tout ça. Donc, moi, j'ai fait un bachelor en tourisme d'aventure. Donc, tourisme d'aventure très spécifique. C'était vraiment... apprendre à gérer des endroits de sport d'aventure, c'est-à-dire si tu veux faire du kayak, de la rando. Donc moi j'ai été prof de rando, j'ai été prof de kayak. Donc vraiment c'était destiné à ça. Et je voulais même ouvrir un centre sportif. Mais à l'époque je voulais vivre pieds nus au Japon et avec
on a les mêmes bails là, tu vois. On a la même vision de la vie, on a les mêmes bails là, ouais.
Mais après, j'ai découvert Abidjan, je me suis dit, je peux faire la même chose ici.
Abidjan est
doux. C'est toujours être pieds nus ici. Donc, mon rêve, c'est toujours d'être pieds nus, de travailler pieds nus.
C'est ça, au bord de la lagune.
Au bord de la lagune, c'est ça. Donc, préparez-vous, il y a un truc qui viendra peut-être dans quelques années.
Ouais. Hein,
mais c'est toujours dans mes rêves, un business avec ça. Mais indirectement, je l'ai créé à travers Train and Travel, puisque j'avais décidé de former des jeunes filles à devenir guides touristiques.
Oui.
Donc aujourd'hui, on a eu à former plus de 200 jeunes filles au guidage.
Ah, c'est bien ça,
tourisme
à Abidjan.
Durable à Abidjan.
Ok.
Donc ça, c'est beaucoup de blogueuses, même que je vois aujourd'hui, sont passées par nos mains. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont leur agence de voyage, on peut voir qui ont été influencées ou inspirées par nos tours. Donc on organise vraiment tout ce qui est tourisme, des tours autour du tourisme communautaire. Donc il y a des ateliers végétariens, des ateliers poterie qu'on avait commencé depuis 2017. On va faire quoi? On a les city tours.
Oui.
Les city tours féministes aussi qu'on a créé
ça
récemment. Voilà, donc
oui.
Tout ça, c'est en fait, c'est partie de ce que j'ai étudié pour ramener en fait mes compétences à d'autres personnes.
Oui.
J'ai eu à travailler dans plus de 25 pays aujourd'hui. Puisque de mon bachelor, je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de plus comprendre que mes pays vivent. Donc quand je dis mes pays, c'est mes pays en Afrique.
C'est ça.
Et j'avais remarqué que beaucoup de personnes blanches connaissent mieux mon Afrique
c'est
que
vrai.
Moi.
C'est une vérité implacable.
Et quand j'ai décidé de faire un master en globalisation, donc en mondialisation et développement, je pense qu'on était quelques personnes de couleur, comme ils aiment dire. Donc peut-être, les Indiens, ils sont toujours là, mais ça va être des Noirs ou des Chinois.
Ouais.
Mais je pense qu'on était que deux Noirs dans ma classe. Et c'était pour étudier, en fait, les pays pauvres.
C'était le cours, étudier les pays pauvres.
Voilà, ils sont toujours experts de nos pays,
oui,
sauf nous.
Les grands experts de l'Afrique.
Parce que nos parents, peut-être, ils veulent qu'on soit avocat, médecin, machin. Donc, on n'est pas experts dans ce que nous, on vit.
C'est ça.
Et je me souviens toujours, parce que moi, j'ai vécu la guerre. Et il y a un blanc dans ma classe qui avait l'air de mieux connaître la guerre au Congo-Brazza que moi. Et j'étais en mode, mais non, c'est pas du tout ça. Moi, je l'ai vécu. Et puis, lui, qui commençait à te donner des théories de machin. Et je lui ai dit, mais allez faire la pratique. La pratique, c'est...
Va sur le terrain,
exactement. Donc, quand j'ai fait ce master, après, je me suis vraiment dirigée dans tout ce qui était humanitaire. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour Médecins Sans Frontières. J'ai travaillé 10 ans déjà pour eux.
Ah, oui, quand même.
J'ai quitté Médecins Sans Frontières l'année dernière, quand j'ai commencé à travailler pour mon association.
C'est ça.
Et donc, Médecins Sans Frontières, on va dire, m'a beaucoup formée. Et je pense que c'est aussi ça qui fait, je dirais, une des forces de Stop au Chat Noir, c'est mes formations ou mon expérience professionnelle. Parce que j'ai eu à travailler dans des pays très, très compliqués. La RDC, c'est le pays le plus dur, je dirais, que, où j'ai eu à travailler.
Oui.
Vraiment le pays le plus dur, là. Une fois que tu as travaillé en RDC...
Tu peux bosser partout.
Franchement, ouais. Je ne m'imaginais pas du tout que ça allait être autant formateur. On travaille dans des zones où voilà, y a une guerre de ce côté. Il y a des personnes qui sont menacées d'expulsion. Il y a des réfugiés. Enfin, en fait, il y a tellement de paramètres où des fois, tu fais des missions d'urgence... Tu travailles sur des missions dites urgence où t'arrives, tu poses juste en fait ta tente.
C'est ça.
Et bah, tu dois aider. Ouais. Ouais, c'est vraiment ce type de mission. J'ai travaillé aussi dans des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan. L'Afghanistan, très formateur aussi. Un des meilleurs pays que j'ai eu à travailler. Alors, pas parce que c'était très dur,
c'est
parce que les gens étaient géniaux.
Oui.
Et qu'il y avait tellement de stéréotypes sur l'Afghanistan que moi, je suis arrivée, je te dis. Tout le monde est magnifique.
T'as vu beaucoup de bienveillance
et
tout ça.
Ah oui, mais ils sont extraordinaires et surtout, ils sont bien formés.
Oui.
Ils sont super intelligents, les médecins. J'ai l'impression qu'ils ont les meilleurs médecins au monde là-bas.
Oui.
Donc, voilà. C'est de très belles expériences. Et du coup, je pense que tout ça a fait que ben, je voulais faire aussi autre chose, mais pour ma communauté.
C'est ça.
Et le fait aujourd'hui, moi, pour moi, je suis ivoirienne. Hein, je suis ici depuis 9-10 ans maintenant. Donc, c'était de donner en retour et comment donner en retour et comment donner de mes compétences.
C'est ça.
Parce que même à travers l'associatif aujourd'hui, ben, chaque personne qui passe dans mes associations, elles doivent être formées. Elles doivent passer par mes types de formations, types de manières de travailler. Je joue beaucoup sur la transparence. Vous savez, dans l'associatif, on croit beaucoup que on vous donne de l'argent, peut-être qu'elle est en train de dépenser dans, je sais pas, dans sa fête là-bas.
C'est
toujours mettre un point d'honneur que c'est la transparence.
Exactement.
Donc, ton reçu de 100 francs, oui, je le veux, parce que ton reçu de 100 francs, même s'il a servi
ça, c'est
pour
la
aller,
traçabilité.
C'est la traçabilité toujours. Et c'est ma formation professionnelle aussi, je pense, qui fait que je puisse, au mieux en tout cas, gérer l'association Stop au Chat Noir aujourd'hui.
Mais tu le fais bien et félicitations.
Merci.
À toi et à toute l'équipe.
Merci.
Surtout à tout ce que vous abattez comme travail sur le terrain et au bénéfice donc des victimes qui comptent sur vous et certainement qui vous assaillent au téléphone pour que vous puissiez les aider au quotidien. Et rapidement, parce qu'on est déjà à la fin, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur le terrain en tant qu'activiste pour aider les victimes ?
Je voyage.
Tu voyages, tu t'es détends en voyageant.
Je voyage, je suis déjà à 79 pays.
Wow.
Je compte pas m'arrêter.
Mais je t'en veux, 79 pays, mais attends, j'espère que je ferai pareil. Moi, même, wow, c'est 5 pays, 5 ou 6. Ah non,
non.
Je dépasse là. Ouh là là.
Non, je compte pas du tout m'arrêter.
Oui.
Donc vraiment, le voyage, c'est quelque chose pour moi de formateur. Le plus on voyage, on découvre d'autres cultures.
C'est ça.
Le plus on peut travailler avec d'autres personnes.
Exactement.
Et de se dire que, ah, aujourd'hui, je peux travailler avec un japonais et que son comportement là qui est un peu très timide, je vais pas le prendre mal.
Exactement.
Moi je dis souvent aux filles dans l'association, vous savez, nous on a été éduqués à la française.
C'est
donc
ça.
Si vous me voyez speed comme ça, c'est mon comportement de française,
c'est
qui
ça.
Est dedans.
Exactement.
Mais il faut apprendre à travailler avec ce comportement là et s'habituer de la même manière où on doit
accepter
s'habituer. Exactement. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous pouvez travailler avec beaucoup de personnalité.
C'est ça, exactement.
Parce qu'on n'est pas tous pareils au travail et on n'a pas tous la même personnalité et aussi selon la nationalité.
Exactement. Merci. Merci. Merci infiniment, Joanne. Merci pour ce témoignage, ce partage d'un pan énorme aussi de ta vie, mine de rien.
Mm-hmm.
Parce que maintenant, je sais où tu mangeais les sushis à Londres. Mais au-delà de ça, merci beaucoup pour les victimes de violences sexuelles. Avec ton ONG Stop au Chat Noir, tu as donné quelques anecdotes, témoignages difficiles, mais j'imagine que ce n'est que 1% de ce que vous êtes confronté, ce à quoi vous êtes confronté au quotidien et ce que les victimes vivent aussi en silence. Et c'est bien de pouvoir libérer la parole. Et avec ton ONG et toi-même, avec ce que tu fais au quotidien, tu aides à libérer la parole. Donc, si vous êtes dans une situation de violence sexuelle, d'intimidation,
de menace. En tant que femme, ou vous êtes mineure, contactez l'ONG Stop au Chat Noir. Elle a donné, on a donné les contacts au départ. Elle peut redonner les contacts juste avant l'émission. N'hésitez pas. L'ONG Stop au Chat Noir est visible également sur Instagram, sur Facebook. Et le numéro de téléphone que Joanne va donner.
Au 07 77 77 79 07 ou le 27 33 72 72 72.
Merci Joanne.
Merci Edith.
Je te dis à bientôt et comme c'est chez toi, je sais qu'on aura l'occasion encore de discuter, de parler encore de lutte contre les violences sexuelles. À bientôt, bon samedi et surtout prenez soin de vous et de votre famille. On se retrouve la semaine prochaine. On échange surtout pas de fréquence. Vous êtes bien sur Life Radio, la 107.7 et vous suiviez Woman Up, l'émission des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ciao, ciao.
Woman Up, le rendez-vous de l'empowerment féminin avec Edith Broubleu, 14h-15h, sur Life Radio 107. Life Radio 107.7, écoutez-nous sur liferadio.ci et suivez toute notre actualité, infos, news, players et un max de tubes non-stop. Life Radio 107.7, comme tu l'entends.